Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Vous y êtes? On peut y aller ensemble et à haute voix. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Père, je te loue pour ces moments. Merci pour ce temps que nous avons mis à part pour répondre à la convocation solennelle que le ciel nous a adressée. Éternel Dieu, je me sens privilégié en une saison comme celle-ci d'être ton porte-parole, d'être ton messager, d'être le canal par lequel tu passes pour parler à ton peuple et l'instruire sur la planète entière. Merci au Père pour la capacité que tu donnes à ceux qui m'écoutent de me comprendre quel que soit leur palier, car je crois en la capacité que le Saint-Esprit accorde à chaque croyant d'avoir accès à la connaissance révélée par l'illumination. Je mets donc une demande spéciale. Éternel, au-devant de ta face ce soir, que mes pensées, que les paroles qui sortent de ma bouche, les mots, les phrases, chaque chose, soit dite après avoir été pensée par inspiration de l'Esprit, afin que ton nom soit glorifié. Je te loue pour les miracles qui vont accompagner sûrement ta parole et pour tout ce qui prendra place dans la vie de celle ou celui qui m'écoute en ce moment. Père, merci, car cette parole va transcender le temps, afin que ton nom seul soit honoré. Au nom suprême de Jésus, avons prié que quelqu'un dise Amen trois fois.
Amen, Amen, Amen.
Faut donner un bon Amen. On amène quelqu'un qui s'attend à quelque chose trois fois.
Amen, Amen, Amen.
Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Au-delà de la loi. Le sous-thème de cette journée, c'est « Et la promesse engendra la loi. » Et la promesse engendra la loi. Voyez les rapports de Dieu avec les hommes ont connu des évolutions avec le temps. Cela n'a pas été dû au fait que Dieu ait changé. Non, puisque notre Dieu ne change pas. Mais les hommes, au fil des âges, ont changé dans leur relation avec Dieu, ce qui a obligé. Le ciel a modifié, vous voyez, la façon d'interagir avec les hommes. Et ces modifications ont été appelées les dispensations. La première dispensation fut donc la dispensation de l'innocence. Quand Dieu créa l'homme et qu'il le plaça dans le jardin d'Éden, qu'il créa l'homme et la femme et qu'il les bénit disant, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu, dans cette dispensation, avait une seule pensée en tête, amener l'homme à régner sur la terre. Que dis-je? Dieu voulait imposer son règne sur la terre au travers de l'homme et de la femme. Ça, c'était la pensée de Dieu dans la dispensation de l'innocence. Et donc, quand Dieu créa cet homme et cette femme, à son image, selon sa ressemblance, Dieu donna un ordre à cet homme et à cette femme. Il dit, dans Genèse 2, versets 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'instruction avait été claire. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malheureusement, Ève et Adam ne respectaient pas cet ordre, cette injonction ou alors cette loi qui leur avait été donnée par le Créateur dans le jardin d'Éden. Et nous nous souvenons que le serpent, qui était l'animal le plus rusé d'entre les animaux des champs, vint vers la femme et réussit à séduire la femme. La femme mangea de ce fruit et en donna à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangeaient. À partir de cet instant, ma Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et les deux découvrirent qu'ils étaient nus. Donc ils prirent conscience de leur nudité. Mais dans l'innocence, ils ne réalisaient pas qu'ils étaient nus. Donc il y a eu évolution. Donc on est passé de la dispensation de l'innocence à la dispensation de la conscience. L'homme a pris conscience de sa nudité. Mais maintenant, suivez-moi bien. Le fait que l'homme prit conscience de sa nudité n'avait pas changé l'intention de Dieu de voir cet homme régner sur la terre, car à aucun moment il n'a voulu traiter l'homme comme il a traité Lucifer dans la montagne de Sion. Car Lucifer avait été propulsé de la montagne de Sion, propulsé du ciel sur la terre, en vue d'une séparation éternelle. Mais pour l'homme, Dieu n'a pas réagi de la même façon. Au contraire, il a manifesté de l'amour à l'égard de l'homme. C'est pour ça que quand l'homme prit les vêtements de figue pour essayer de couvrir sa nudité, quand l'homme, Dieu parla à l'homme en demandant où tu es, l'homme dit « Je suis nu » parce que les vêtements qu'il portait autour de lui n'étaient pas suffisants pour cacher cette nudité. Et c'est alors que la Bible dit que Dieu fit des vêtements de peau et il couvrit, n'est-ce pas, l'homme. Il fabriqua des vêtements qu'il mit sur l'homme. Dès cet instant, Dieu révéla par son acte à l'homme et à la femme l'amour qu'il exprimait pour eux. Car c'est l'amour qui couvre une multitude de fautes. Dieu venait de couvrir la nudité de l'homme en manifestant son amour. Mais plus grave, quand il se mit à poser la question au serpent, vous allez vous rendre compte qu'il a posé, quand il posa la question à la femme dit, c'est le serpent. Quand il se tourna vers le serpent, il maudit le serpent. Il dit au serpent, maintenant, tu ramperas. Est-ce que le serpent marche? Est-ce qu'il ne rampe pas? Laisse-moi te dire que quand la parole de Dieu sort, elle s'accomplit effectivement. Amen. Chaque fois que vous voyez un serpent ramper, souvenez-vous qu'il a été victime d'une parole qui a été relâchée sur sa destinée et qu'il a consécuté. Je déclare sur ta vie que tes ennemis ramperont comme les serpents. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je relâche cette parole sur leur destinée en vertu du pouvoir que le ciel m'a donné. Et je déclare que tes ennemis mordront la poussière au nom puissant de Jésus. Alléluia! Tu ne peux pas te lever contre ce que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance et rester debout. Le serpent a dû ramper et il rampe encore jusqu'à aujourd'hui. Je prophétise dans cette saison que cette année, tes ennemis qui étaient debout ramperont. Alléluia. Ils ramperont à cause de la puissance de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc, et Dieu, vous savez, ce que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'il s'adressa au serpent très sérieusement. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que certaines personnes entre nous essayent d'être des amis des personnes qui sont des compagnons de l'enfer? Il dit, je mettrai inimitié. Il dit, je mettrai inimitié. Cette année, quand tu verras le signe de l'inimitié dans une relation, n'accuse pas le ciel ou l'enfer. C'est simplement Dieu qui est en train de te montrer que la séparation doit avoir lieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit, je mettrai inimitié. Oh, jamais les gens qui sont avec le diable pourront être tes amis. Tu n'as pas été conçu pour les avoir comme amis. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et ta et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Arrêtons-nous là un moment. Je crois profondément que cette inimitié ne s'arrête pas au simple fait du serpent physique. Mais c'est une inimitié, quand Dieu parlait, il s'adressait à toutes les puissances que représentait le symbole du serpent. Donc il parlait à toutes les forces qui étaient cachées au travers du serpent et qui l'ont utilisé, orchestré pour provoquer la chute. Et il dit, je mettrai inimitié. De la même façon que la femme a sa postérité, le diable a sa postérité. Et il dit, je mettrai inimitié entre les deux. Et il dit, celle-ci te crachera la tête et tu lui mordras le talon. Donc c'est une parole que le diable, Dieu a adressée directement au serpent. Celle-ci te crachera la tête. Alléluia. Amen. Vous voyez? Mais vous voyez, c'est une parole que Dieu a relâchée dans la dispensation de la conscience. D'accord? Il dit, d'accord, la descendance, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais maintenant, il fallait, pour que cela soit possible, que le péché qui était entré dans le monde soit ôté et que l'homme retrouvât sa domination. Donc Dieu devrait donc chercher sur la terre un homme avec qui il ferait une alliance afin que sa parole se réalise. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Car la terre n'était plus la propriété de l'homme. La terre avait basculé entre les mains de Satan. 2 Corinthiens 4, verset 4 dit, et Satan est devenu le Dieu de ce monde. Mais pourquoi? Parce que justement, l'homme et la femme avaient cédé l'autorité de la terre, le contrôle de la terre entre les mains du diable. C'est pour ça que quand Jésus arriva, le diable lui dit, prosterne-toi devant moi, je te donne tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés. Mais par qui? Pas par Dieu. Mais pas Adam et Ève qui ont donné la terre à Satan. Maintenant, Dieu avait annoncé la parole claire, disant clairement au serpent, même si aujourd'hui tu as pris avantage, même si aujourd'hui vous êtes en train de régner sur les hommes et vous êtes devenus les maîtres, je vous garantis que cette situation va changer. Je vais m'employer à inverser les choses de façon à ce que l'homme retrouve la domination et qu'il commence à régner à nouveau. C'est ce que Dieu était en train de dire au serpent. Lève ta main droite, dis, je règne à nouveau. Encore dis, je règne à nouveau. Vous voyez? Donc, voilà, c'est. Donc Dieu devait trouver un homme. Mais entre-temps, comme l'homme avait perdu la connexion avec Dieu, comme l'homme n'était plus uni avec Dieu, comme l'homme était séparé d'avec Dieu, et que la mort éternelle s'était infiltrée dans l'homme, que l'homme avait perdu la vie de Dieu. Alors l'homme commença à manifester le cycle de la loi du péché et de la mort. Donc le péché s'infiltra dans l'homme et le règne de Satan commença à se manifester au travers des hommes. Et c'est ainsi qu'on vit comment est-ce que Caïn tua son frère Abel. Et comment est-ce que sur la terre le mal s'accrut. Au point où Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, a regardé le monde et il a dit, je me répands d'avoir créé la terre. Et il décida de détruire totalement la terre. C'est alors qu'il trouva en une personne appelée Noé, un homme intègre, par lequel il pouvait passer pour accomplir ses plans. C'est alors qu'il demanda à Noé d'aller construire l'arche. L'arche avait pour but de sauver des espèces et de recommencer à nouveau, car le mal s'était accru sur la surface de la terre. Et nous voyons, nous savions bien comment est-ce que Noé et les membres de sa famille, au total 8, furent sauvés au travers de l'arche et quand il y a eu ce déluge qui avait effacé tout sur la terre. Comment Dieu sauva Noé, sa famille et chaque espèce en couple. D'accord? Et Noé donc revint sur la terre. Et l'arc en ciel apparut après que Noé ait apporté une offrande à l'Éternel. Nous nous rappelons que quand l'arc en ciel est apparu, Dieu lui a dit, je ne détruirai plus jamais la terre. Donc il confirma à Noé que son intention ne sera plus jamais de la détruire. Mais bien au contraire de ramener l'homme à la domination sur cette terre. Et Dieu continuait de chercher. C'est ainsi qu'il trouva plus tard un homme appelé Abraham. Pas Abraham, Abraham. Et le nom d'Abraham voulait dire père béni. Mais ce nom-là, il l'obtint d'un père qui lui était adorateur d'idoles et n'avait aucune relation avec Dieu. Donc il était dans une famille de plein idolâtre. Quand Dieu lui apparaît et Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu parla à Abraham, dans l'intention de sortir Abraham et d'utiliser Abraham pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et il dit à Abraham, suivez bien, il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Je ferai de toi une grande nation. Oh là là, est-ce que quelqu'un peut comprendre de quoi je parle? Amen. Oh là là, est-ce que tu es avec moi? Ben, tu vas comprendre tout à l'heure. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais le but, en faisant la grande nation, c'est atteindre l'objectif final qui est d'amener toutes les familles de la terre à être bénies par Abraham. Mais la bénédiction des familles de la terre devrait passer par l'émergence d'une grande nation. Est-ce que tout le monde comprend de quoi je parle? Et c'est alors en ce moment-là, à cause de la promesse que je fis à Abraham, qu'on parle ici de la dispensation de la promesse. Donc il eut une promesse. Demain on reviendra dessus. Comment est-ce qu'Abraham a été avec Dieu jusqu'à ce que la promesse se manifesta? Là je suis juste en train d'introduire. D'accord? Et on va bien comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes se trompent. Certaines personnes commettent tant d'erreurs dans leur marche avec Dieu parce qu'ils n'ont pas bien compris l'esprit de la parole. Et vous voyez, donc Dieu et va maintenant, dans cette dispensation, bâtir une alliance avec Abraham, qui est l'alliance abrahamique. Et donc, il promit à Abraham, disant, Abraham, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Mais après, je vais les libérer. D'accord? Et ils iront me servir. C'est ainsi que, quand vous lisez bien la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a eu ensuite Isaac, qui a été béni par Dieu. Il y a eu Jacob, qui ensuite a eu son nom changé, Israël, qui a été béni par Dieu. Et on a vu Joseph, qui alors a été vendu par ses frères et est allé s'établir en Égypte, qui est devenu le premier ministre en Égypte par la sagesse de Dieu. Au travers de l'alliance abrahamique qui opérait dans sa vie, il préserva l'Égypte d'une très grande famine. Et c'est alors que, quand il mourut, le roi qui succéda à celui qui était le roi de l'époque sur l'Égypte oublia les enfants d'Israël, oublia les descendants de Joseph et alors commença à se dire, ils sont tellement nombreux que si on ne les oppresse pas tellement, ils risquent de prendre le contrôle de l'Égypte. C'est ainsi qu'on les bossa dans un endroit appelé Goshen où on les transforma en esclaves et ils étaient dans la boue pour fabriquer des briques. Et il ne comprit pas qu'en poussant ces gens à Goshen, en les mettant dans la boue, ils étaient en train de préparer l'accomplissement d'une prophétie qui était clairement annoncée. Car Dieu prend l'indigent de la boue pour l'amener à la table avec les rois. Et il me semble que ce passage dans la boue était indispensable pour la dimension de gloire dans laquelle Dieu allait conduire ce peuple. Je veux dire à quelqu'un ce soir, que le Dieu qui a parlé à mon père Abraham n'a pas changé. Quelle que soit ta position, quel que soit là où tu es, il est encore capable de te prendre de la boue pour te faire asseoir avec les grands dans leur temps. Alléluia! Quelqu'un me donne un bon amen. Amen! Et c'est ainsi que Dieu prit donc un peuple d'esclaves. Il sortit le peuple d'Égypte après les disciples les plus extraordinaires et puissants. Il délivra ce peuple par son bras étendu et transporta et amena ce peuple dans le désert. Le but de Dieu n'était pas que le peuple s'arrête au désert, mais le désert était indispensable pour que la mentalité d'esclavage qu'ils avaient reçue en Égypte puissent totalement partir et qu'ils puissent connaître le grand Dieu qui les a fait sortir. C'est alors que dans le désert, Dieu va commencer à les épater et étonner en faisant descendre la manne et la caille dans le désert. faire jaillir l'eau du rocher. Mais ce peuple était tellement, tellement influencé par l'Égypte dans lequel ils vivaient avant, qu'ils vont faire tout le temps allusion au retour vers l'Égypte. Mais Dieu avait une intention, Dieu avait un but, c'était d'amener ce peuple à la terre promise. Pourquoi? Pas parce que ce peuple était le peuple le plus extraordinaire. Le but de Dieu était de tenir sa parole à l'égard d'Abraham. Ce que je veux te dire, c'est que quand Dieu te donne une parole, que tu dormes ou que tu veilles, que tu sois mort ou vivant, la parole qu'il t'a donnée, il ne va jamais la régner parce que tu n'en es plus conscient. Quelqu'un me dise un bon amen. Si Dieu a pu tenir sa promesse à Abraham, même après sa mort, ce n'est pas à toi qu'il fera défaut pendant que tu es vivant. Je prophétise sur ta vie et je déclare l'accélération de l'accomplissement des promesses de Dieu à ton égard par la puissance de Dieu. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un me dise amen. Amen. Lève ta main et dis, je le crois. Il le fera. L'Éternel me bénira. Alléluia. Amen. Vous voyez que quand Dieu sort ce peuple, il sort ce peuple parce qu'il a fait une promesse à Abraham. Donc, c'est à cause de la promesse faite à Abraham que l'action de Dieu intervient en Égypte. Pas simplement à cause des cris, mais à cause de l'alliance. Donc, l'alliance abrahamique a poussé Dieu à l'action. Et c'est ainsi que quand ils arrivent dans le désert, Dieu va conduire Moïse sur la montagne et il va donner les commandements de la loi. Donc cette loi qu'il donne à Moïse est l'institution de la grande nation dont Dieu a parlé à Abraham. Donc Dieu voulait instaurer la grande nation. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Est-ce que Israël aujourd'hui est une petite nation? Vous savez qu'Israël est puissante uniquement à cause d'Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais mon problème, lors de ce séminaire, c'est que nous puissions comprendre que si on s'arrête à Israël, la promesse de Dieu à Abraham est incomplète. Ton amen m'embête. Dis à ton voisin, est-ce que tu percutes? C'est très profond ce que le pasteur est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Israël est respecté? Est-ce que Israël est craint? Entouré de ses ennemis? Est-ce que ses ennemis ont raison d'Israël? Pourquoi? Pas à cause d'Israël, mais à cause de la promesse faite à Abraham. Maintenant, est-ce que vous pouvez voir dans le naturel que Dieu a tenu sa parole vis-à-vis d'Israël? Mais cette parole ne s'arrêtait pas à Israël. Elle se prolongeait jusqu'à moi, à toi. Oh, oh, quelqu'un dise amen. Car l'Éternel, mon Dieu, dit à Abraham, toutes les familles. Oh, quelqu'un dit famille. Quelqu'un dit famille. Ouh là là. Seront bénis après toi. Dans le but de Dieu, c'était que toutes les familles. Donc si on s'arrête à Abraham, la parole est incomplète. Il a dit toutes les familles. Si tu es seul dans ta maison bénie, tu n'es pas béni. Une bénédiction qui s'arrête à toi peut ressembler à une malédiction. Elle doit couler, embraser ta famille comme un tsunami. Quelqu'un dise amen. Elle doit ruisseler sur toi par la puissance en haut. Donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit toutes les familles. On a des gens qui sont bénis sous forme de singleton, isolés dans un coin. Bénis dans la famille et tout le reste est en train de vivre des choses incroyables. Non, ça c'est pas la vraie bénédiction. Quand la bénédiction du ciel arrive, la famille entière est secourue. Car Dieu a dit, toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Je prophétise sur ta famille. J'appelle sur ta famille, selon l'ordre de Dieu. Maintenant, sur cette promesse que Dieu a faite à Abraham, mon père, que ta famille par ta connexion avec Abraham, par ta connexion avec Jésus, est visité selon la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est obstacle à la promesse de Dieu dans ta famille soit ôté, au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. S'il te plaît, donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Ce n'est pas Dieu qui parle. D'accord? Donc vous voyez, si aujourd'hui, quelqu'un a un problème avec la bénédiction, il a un problème avec l'alliance. Parce que l'alliance stipule clairement que des bénédictions y sont rattachées. Dieu n'a jamais dit à Abraham, et les familles de la terre seront maudites après toi. Et quelle est la raison pour laquelle il donne la loi au peuple d'Israël pour en faire une nation? Pourquoi est-ce qu'il en fait une nation? Parce qu'il fallait que cette nation soit établie et qu'on ait un modèle du règne de Dieu au travers des hommes. C'est pour ça que c'est la seule nation où on a vu la théocratie. Parce qu'Israël, au départ, n'était pas démocratique, mais théocrate. Donc, il régnait par les lois de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je commence à bien comprendre? Donc, Dieu voulait établir une nation qui soit le spécimen de ce que Dieu voulait faire avec les hommes sur la terre. Comme Adam et Ève ne nous ont pas donné le temps de voir cela s'accomplir dans sa plénitude. Mais, ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, c'est que quand Dieu donne la loi à Moïse, avant la loi donnée à Moïse, il existait des lois. Oh, est-ce que quelqu'un est encore là? J'ai dit avant la loi donnée à Moïse, avant les 10 commandements de la loi, il y avait des lois que cette loi n'a pas abrogées. Mais ces lois qui ont été brisées, diluées et infiltrées dans les lois abrahamiques, dans les lois de Moïse. Par exemple, vous êtes là? Il faut comprendre. Hein? J'ai dit avant la loi de Moïse, il y avait des lois. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que le royaume des cieux fonctionne sur des lois, mais pas sur la loi de Moïse. Non, le royaume des cieux ne fonctionne pas sur la loi de Moïse, mais fonctionne sur les lois du ciel. Par exemple, la loi de l'amour est une loi qui existait avant les 10 commandements. C'est une loi que même les 10 commandements ne pouvaient pas ébranler. Ensuite, la loi de la semence et de la moisson, elle a existé avant la loi. N'est-ce pas? Quand il bénit Adam et Ève, il dit quoi? Je vous donne le fruit portant la semence sera votre nourriture. Donc, la loi de la semence et la moisson ont existé avant la loi. D'ailleurs, même dans Genèse 8, verset 22, il dit, autant que le ciel, le jour et la nuit, ne passeront le ciel et la nuit, l'hiver et l'été, la semaille et la moisson ne passeront point. Donc Dieu établit clairement qu'il y a des lois qui ne vont que le temps et même les dispensations ne vont pas ébranler. Vous êtes avec moi? Et vous voyez, il y a la loi de la mesure. On reviendra là-dessus, a existé avant la loi de Moïse. Car Jésus est venu parce qu'Abraham a donné son fils. Donc Dieu a mesuré de la mesure dont Abraham s'est servi. Donc cette mesure, la loi de la mesure a existé avant la loi de Moïse. Donc beaucoup de personnes qui ne comprennent pas régissent leur rapport avec Dieu en fonction des commandements de la loi de Moïse, la loi mosaïque. Non! Avant la loi mosaïque, il y avait les lois du ciel. Car même Adam dans le jardin d'Éden vivait sous les lois du ciel. Le royaume des cieux est bâti par des principes et des lois. Si vous les mettez en application, alors vous pouvez prédire votre succès. Le succès dans le royaume des cieux n'arrive pas par accident, mais est préparé à l'avance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même le miracle est une préparation. Si vous n'êtes pas préparé, le miracle ne vient pas. Ça ne veut pas dire que le ciel ne peut pas le faire, mais il est important de comprendre. Même la loi de la foi existait avant la loi. Les gens doivent comprendre ces choses. Est-ce que ça va? Donc vous voyez donc, c'était des lois qui étaient données comme la constitution pour un peuple. Je précise, pour un peuple. Et le peuple juif La loi n'a été donnée ni pour toi, ni pour moi, mais pour les Juifs, comme nation juive, établie par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, c'est très stupide de voir des gens se lever et de prendre la loi qui était donnée dans le contexte de la dispensation de la loi et faire de la loi leur style de vie. Non! La dispensation de la loi est dépassée, nous vivons dans la grâce. Et nous ne pouvons plus faire appel à la loi comme si la loi est ce qui doit régir notre vie sur la terre. Non, non, et encore non. Nous sommes nés du régime de la grâce. On en parlera lors de ce séminaire. Nous sommes nés du régime de la grâce. Et la grâce n'est accessible que par la foi. Tant qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de grâce. La preuve, c'est la foi qui a engendré la loi. Oh, est-ce que les gens me regardent, vous dites de quoi ils parlent? Oui, c'est la foi qui a engendré la grâce dans la loi. Est-ce que vous savez que Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut imputé à justice? Si Abraham n'avait pas cru, la loi n'aurait pas eu lieu. C'est parce qu'il a cru que la loi a été engendrée. Est-ce que ça va? Demande à ton voisin, est-ce qu'il parle encore à ton niveau aussi? Est-ce que tu comprends de quoi il parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, il y a eu la loi. C'est la loi, c'est la foi d'Abraham qui a engendré la loi. C'est parce qu'Abraham a cru que cela lui fut imputé à justice. Donc, c'est à cause de la foi d'Abraham que la loi a été donnée au peuple juif. Donc, nous ne pouvons pas traiter avec la loi comme si elle est au-dessus de la foi. Non, elle a été engendrée par la foi d'un homme à qui Dieu a fait promesse. Là, vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Alors maintenant, certaines personnes pensent, c'est parce que je me suis levé, j'ai donné la dîme, j'ai chanté, j'ai dansé, que le ciel m'a arrosé. C'est la plus grande stupidité qu'on voit à l'église aujourd'hui. Bien que cela soit important, n'oubliez jamais que tant que vos actions ne sont pas motivées par la foi et que la loi gouverne ces actions, elles sont stériles devant le ciel. Car cette loi ne vous avait pas été donnée. J'expliquerai demain pourquoi est-ce que les gens se battent. Oui, la dîme n'est plus publique, la dîme n'est plus publique. Oui, dans le contexte de la loi, oui. Dans le contexte de la loi, oui. Mais il existait des lois avant la loi. Donc même si on éradique la dispensation de la loi, on n'abolit pas les lois du ciel qui existent avant la loi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Allez donc demander à Abraham quel concours il a passé pour être appelé par Dieu. Je touche maintenant le cœur de mon message de ce soir. Dans quel concours Abraham a passé? Quelle prière il a faite? Aucune. Il a parlé en langue? Non. Il a roboko shinde rebeke? Non. Il dormait au milieu des fétiches et des canaries. Quand Dieu a regardé, et il dit, ce jeune homme couché dans la maison de son père me plaît bien. Je le veux. Dieu est descendu pour faire la cour à Abraham, pour dire, Abraham, j'ai besoin de toi. Est-ce que vous me comprenez? Abraham, j'ai un problème sur la terre, j'ai besoin de toi pour m'aider à le résoudre. Chaque fois que le ciel t'appelle, c'est parce que le ciel a un problème. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La religion nous a fait croire que Dieu nous sauve simplement parce qu'il veut nous amener à des enfants de Dieu. Non, chaque enfant de Dieu sauvé est une solution à des problèmes pour le ciel. C'est pas parce que tu as prié et que tu as jeûné mieux que quiconque. Non, non, c'est simplement parce que le ciel t'a choisi. Et ensuite, chaque promesse que Dieu te fait est rattaché à un plan qu'il a souverainement mis en marche. Je ne sais pas si tu me comprends. Je dis, chaque promesse que Dieu te fait est souverainement rattachée à un plan qu'il a mis en marche. Il t'a dit, je vais te lever, je vais te bénir, je vais te faire ci, je vais te rendre riche, je vais te donner l'onction, je vais te donner les dents. Tout ça, c'est rattaché à un plan qu'il a mis en marche. chaque promesse du ciel. S'il a fait la promesse à Abraham, c'est parce qu'il avait le plan de sauver la terre. Quand il a appelé Moïse, c'est parce qu'il avait l'intention d'établir une nation. Quand il a suscité David, il voulait un roi sur son peuple. Et je vais vous dire ceci. Certains d'entre nous, nous sommes appelés parce que d'autres ont fait déchéance avant nous, ont échoué avant nous. Élisée a succédé à Élie parce que Élie a eu peur devant la prophétesse de Baal. Il a tremblé. Il a eu peur. Et là, son ministère s'est arrêté. Et Élisée a été suscité. C'est quand Moïse a frappé le rocher que Josué a émergé. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. N'ayez pas ce type de ministère qui s'arrête en route et que le ciel soit obligé de vous remplacer. Lève ta main droite, dis j'irai jusqu'au bout. Lève encore ta main droite, dis j'irai jusqu'au bout. N'oubliez pas que Judas a dû être remplacé dans son ministère aussi. Mais toi et moi, nous ne serons pas remplacés. Alléluia. On ira jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Chaque fois que Dieu vous appelle, il vous fait des promesses et que vous vivez dans le nombrilisme, dans l'intention d'être focalisé sur votre personne et non ses intérêts, vous risquez de passer à côté de ce que le ciel vous réserve et d'être remplacé dans le chemin. Pourquoi est-ce qu'Élie a eu peur? Il a cru que c'était sa force. Et Dieu lui a dit, j'ai 7000 autres gars qui n'ont pas fléchi les genoux devant le même problème. Est-ce que ça va? Quel que soit ce qui t'arrive, tu n'es pas la seule personne. Laisse-moi te déclarer ceci, tu n'es pas la seule personne qui passe par là. N'essaye pas d'avoir un visage d'indien en guerre simplement parce que tu es dans les problèmes. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quelqu'un dit, je me réjouis dans le Seigneur. Alléluia, je me réjouis dans le Seigneur. Mesdames et messieurs, souvenez-vous que celui qui a écrit cette lettre disant « réjouissez-vous » était en prison. Il n'y a que les gens qui ont compris leur destinée qui peuvent en prison encourager les autres à chanter des cantiques. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a fait la promesse connaît la fin de la chose avant qu'elle n'arrive. Oh, quelqu'un comprend de quoi je parle. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Dis-le à quelqu'un, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Alléluia. Et la deuxième chose, quand Dieu t'a choisi et quand il t'appelle, bien aimé, chaque enfant de Dieu né de nouveau a été appelé, a été choisi. Quand Dieu t'appelle, il ne tient pas compte de ce que tu es aux yeux des hommes, mais de ce que tu es à ses yeux. Ce n'est pas ce que tu as aux yeux des hommes qui compte. Mais lui, il pense, qu'est-ce que cet homme est à mes yeux? Comment est-ce que le ciel te voit? Tu devais le savoir. Comment le ciel te voit? Comment la société te voit? Chaque fois que tu veux avoir une définition de ta personne basée sur le regard des hommes, tu seras toujours dévalué. Vendu aux enchères. Mais je prophétise sur ta vie qu'il ne s'agit pas de toi. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Chaque fois que le ciel t'appelle, le ciel te sait capable d'exploits remarquables. Oh non, ton silence m'embête. J'ai dit le ciel te sait capable d'exploits remarquables. Donne-moi un bon amen. Sinon, le ciel ne t'aurait jamais appelé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce que Dieu sait que tu es capable d'exploits remarquables qu'il t'a choisi dans son équipe. Quelqu'un est avec moi? Vous avez déjà vu les joueurs qu'on recrute et on appelle quelqu'un à l'équipe de Barcelone ou du Real ou du PSG en France s'il n'est pas un bon joueur. Ce sont les meilleurs des meilleurs qui jouent dans les grandes équipes. Est-ce que vous me comprenez? Et dans l'univers, il y a une équipe qui a gagné pour l'éternité. C'est l'équipe du royaume. Quand Dieu dit ce que j'ai connu d'avance, je les ai prédestinés. Ça veut dire qu'il n'a même pas donné la possibilité à Satan de pouvoir coopter les gens de valeur. Il les a... Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'ai entendu le ciel me dire, j'étais mandaté de la responsabilité d'aller recruter les meilleurs dans la génération. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile, afin que les meilleurs soient transportés dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul était trop fort pour mourir. Il était tellement bon que Dieu a jugé, dit qu'un gars comme ça dans l'équipe de Satan, ça ne vaut pas la peine. Il a recruté lui-même sur le chemin de Damas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis, j'ai une destinée. Dis, j'ai une destinée. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que c'est capable d'espoir remarquable. Ce ne sont pas des espoirs de sauterelle, de criquet, de magouilla. Non, espoir remarquable. Je crois pour ma part que les gens qui appartiennent au royaume de Dieu sont condamnés à faire des choses remarquables dans leur génération. Je prophétise sur toi que cela arrivera. Personne ne saura arrêter ça. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. C'est peut-être la raison pour laquelle tu es encore dans cette histoire. Papa, je prie depuis longtemps, je n'ai pas vu les choses changer. J'écris depuis longtemps, papa, on ne m'a pas exaucé. Ça fait 15 ans que je crie. Ça fait 18 ans que j'écris. Abraham a crié pendant 24 ans et c'est la 25e année que les anges se sont montrés dans sa maison. Parce que Dieu voulait faire durer l'histoire, parce qu'il voulait que l'espoir d'Abraham soit remarquable. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia! Alléluia! Dis, je ne suis pas n'importe qui. J'ai été appelé par le Très-Haut. Ma destinée est tracée. La gloire m'est réservée. Je déclare, je règne, que le diable le veuille ou non. Alléluia! Alléluia! Et la bonne nouvelle, bien-aimé, écoutez-moi bien, chaque fois que Dieu t'appelle, il est responsable de ta vie. Le vrai problème, c'est que tu es appelé par Dieu, mais tu vas encore gérer ta vie toi-même. Il est responsable. Il est responsable. Il prend soin de toi, jusque dans les moindres petits détails. Il dit, même les cheveux de ta tête sont comptés. Aucun d'entre eux ne tombe sans sa propre permission. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains d'entre vous, vous perdez les cheveux, ne vous rendez pas compte. Mais le ciel dit, chaque fois qu'un tombe, j'ai permis que ça tombe. Jusque dans les petits détails. Donc, ne vous dites pas, oh Dieu, tu étais où? Quand cette histoire m'est arrivée, j'ai l'impression que le ciel m'a lâché. Le ciel ne va jamais lâcher. J'ai dit, jamais lâcher un citoyen de son royaume. Si les Américains abandonnent, n'est-ce pas, les gars qui sont pris en otage par les islamistes radicaux et puis ces sauvages, vous, je vous garantis que le ciel ne lâche jamais ce qui lui appartient. Jamais. Et il ne paye pas de rançon. Le ciel ne paye pas de rançon. Mais le ciel fait fléchir les genoux à ceux qui te prennent en persécution. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare que ceux qui veulent te prendre en otage seront ridiculisés par la puissance de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Papa, j'ai trouvé les canaris devant mon bureau. On a cassé des canaris. Saute sur ça et tu passes. Tu n'as même pas besoin de dire au nom de Jésus. Non, même pas. Tu passes dessus. Vous savez, souvent, même quand on dit au nom de Jésus, c'est comme si on n'est pas conscient de qui on est. Je passe sur le canari. Je n'ai pas besoin de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. 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 J'ai une alliance. Quelqu'un dit j'ai une alliance. Quelqu'un dit j'ai une alliance. Alléluia. Tu trouves des fétiches, tu passes dessus. Tu n'as pas besoin de jeûner pour traverser. Le ciel prend soin de toi. Ta présence neutralise puissamment les actions des ténèbres. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un tue un mouton et jette dans ton sac, dans ton champ. S'il vient juste de mourir, prends-le, prépare, braise-le. Il est bon à manger. Il n'y a rien dedans qui soit mauvais. Tu déclares dessus au nom de Jésus et il est mangeable. Aucun fétiche ne peut rien contre ta destinée. Bien-aimé, j'ai dit le ciel prend soin de toi. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Méditez un moment, un seul moment. Un homme qui n'est pas né de nouveau, fils d'idolâtre, Son père est dans les fétiches. Dieu l'appelle. Il remporte tous ses combats et ses batailles. Parce que le ciel lui a parlé. À plus forte raison. Un homme comme moi. Donc Dieu a fait mourir le fils sur la croix. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qui est cet incirconcis? Qui est ce démon? Qui est ce sorcier? Qui est ce féticheur pour oser occulter ta destinée? Qui Satan est un menteur? S'il te plaît, dis Satan est un menteur. Dis Satan est un menteur. Alléluia. Alléluia. Non, papa, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit qu'il ne me reste plus que 7 jours à vivre. Reprends le téléphone et appelle ceux qui t'ont appelé. Dis à ceux qui t'ont appelé que s'il te reste 7 jours, il reste 6 jours pour eux. Il ne faut jamais vous laisser intimider par qui que ce soit. Je dis bien jamais. Quand Dieu t'appelle, il est responsable de ta vie. Est-ce que ça va? Même dans les moments où il sait que ta vie de prière a baissé, que tu n'es plus en bonne connexion, le ciel ne te lâche pas pour autant parce que tu es dans les problèmes. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la mentalité de la loi. On en parlera avec écriture. Texte à l'appui. Non, il dit, lorsque même vous êtes infidèle, moi Dieu, je demeure fidèle. Pourquoi? Le drame, c'est qu'il y a des gens qui essaient de définir Dieu par leur petit cerveau humain. Ils veulent que Dieu ressemble à leur tête, à leur culture, à leur tradition, à leur manière de voir. Si ça ne dépendait que d'eux, tu ne serais jamais choisi à appeler. Mais Dieu a prévu que les gens soient contre ce qu'il veut faire. Parce qu'il a dit que c'est en face de tes adversaires qu'il dresse la table. Qu'il dresse la table. Ah! Ah! Dresse la table royale. En face de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je m'en fous de ce que mes ennemis pensent. Que je m'en fous de ce qu'ils disent. Car je sais, que 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 Dieu est avec moi. Alléluia. Plus tu as des ennemis, c'est un indicateur de la dimension de gloire à laquelle Dieu t'a appelé. Regardez, les gens, ils pensent qu'on parle pour parler. Si vous dressez une table ici, elle aura cette taille. Parce que les ennemis ne sont pas nombreux. Mais si les choses à donner sont immenses, si les choses que je veux te donner sont immenses, et que je dois mettre en face de tes ennemis, il faut qu'ils soient plus nombreux. Donc je dresserai une longue table, parce qu'il faut que les ennemis soient nombreux, et parce que les bénédictions que je vais déposer sont tellement nombreuses, qu'il faut de nombreux spectateurs. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Alléluia. Amen. Je sais en qui j'ai cru, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous voyez, et le ciel va toujours t'amener à tes propres limites pour te montrer la grandeur de celui qui t'a appelé. Dans le fait que tes limites arrivent ne veut pas dire que le ciel t'a lâché. Chaque fois que tu arrives au bout de tes capacités, c'est alors là que le ciel commence. La mer Rouge ne s'est pas ouverte quand le peuple n'était pas en face. Quand Abraham pouvait avoir une érection normale, il n'a pas eu d'enfant. Si Marie avait déjà connu un homme, elle ne serait jamais tombée enceinte. Parce que le ciel prend plaisir à agir, car la limitation des hommes est arrivée à leur paroxysme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu t'a destiné à mener une vie surnaturelle. Dis je reçois.
Je reçois.
Dis je reçois.
Je reçois.
Alléluia. Il va t'étonner. Et ôter la honte qui est rattachée à ta personne. Le Dieu que je sais. Quelqu'un dise un bon Amen. Quelqu'un dise un bon Amen. Imaginez, Abraham était viril, fort, quand Dieu l'a appelé. 75 ans. À cette époque, à 75 ans, on est un homme bien en forme. Dieu laisse passer les ans, les années, ce succès. Il n'agit pas. Pourquoi? Parce que, vous voyez, premièrement, Dieu ne prend pas plaisir à agir avec nous Tant que nous avons installé dans notre homme intérieur la pensée de la loi, c'est-à-dire qui est rattachée à notre propre chair, comme si l'effort venait de nous et comme si la gloire nous était attribuée. Si on n'arrive pas à la fin de nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il n'y a plus que lui pour le faire, et qu'il n'y a même plus une once, un seul trait, un seul point personnel de nos efforts qui soit capable de teinter son miracle, alors à partir de ce moment, le ciel décide d'agir en ta faveur. Rappelez-vous que quand l'ange arrive chez Sarah et que Sarah va prendre le truc, quand l'ange dit l'année prochaine, les trois anges, à la même époque tu auras un enfant, est-ce que vous savez que la réaction de Sarah était, elle dit, mais c'est maintenant que je n'ai plus de désir que je vais tomber enceinte. Elle n'a pas dit monoposie. Regardez le texte. Parce que certaines personnes pensent que c'est moi qui dis. Genèse 18, verset 12, elle rit en elle-même. Est-ce que quelqu'un est là? Elle rit en elle-même, disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Aurais-je encore des désirs? En quelque sorte, elle se dit, mais quel est le plaisir, j'aurais même encore à aller avoir des rapports. Et mon gars, lui aussi, il est mort. On va faire comment dans cette histoire? Vous comprenez? Donc elle arrive logiquement en elle-même pour dire, vous savez, Sarah aimait son mari. Elle dit, ah, ce gars m'a amené dans des histoires compliquées. Je suis sorti de ma maison, on est allé ensemble, il commence à me dire, Dieu lui a apparu. Voilà que, voilà, jusqu'aujourd'hui, on n'attend pas. Et maintenant, les gars arrivent, on dit, j'aurai un enfant, on dit à Abraham, toi aussi. Elle avait raison de rire. Vous dites que, mais attends, c'est quoi cette histoire? Maintenant, même, je n'ai plus de plaisir. Ou même les noix, les soirs encore, quand on était dans la jeunesse de nos mariages, même s'il n'y avait pas d'enfant, au moins, on prenait plaisir à le faire. Le plaisir même a disparu. Mon gars n'a plus d'érection. Est-ce que vous savez que c'est très révélateur? Chaque fois que ce que vous faites pour Dieu, vous en tirez un plaisir personnel, le meilleur du ciel ne viendra pas encore. Chaque fois que vous en tirez un plaisir personnel, chaque fois que vous le faites pour une satisfaction de l'ego personnel, vous n'allez pas avoir la plénitude de ce que le ciel réserve. Dieu va s'assurer que vos désirs personnels soient morts. Et que le battement de votre cœur la nuit, quand Abraham allait vers sa femme, ce n'était plus pour avoir le plaisir. Il allait pour un seul but, accomplir le mandat que le ciel lui a assigné, avoir un enfant. Donc son érection n'était plus pour des rapports sexuels, mais son érection était pour la venue de la postérité qui devait vivre. Vous voyez, un homme vieux, un homme usé, un homme fatigué, c'est de cet homme que naquit la nation la plus puissante du monde jusqu'aujourd'hui. Rendez compte de ce que Dieu est capable de faire quand notre foi se lève. Lève ta main droite, dis Seigneur, je fais le choix de la foi. Oh, déclare-le encore, je fais le choix de la foi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la vie de foi est capable de produire, n'est-ce pas, dans la vie d'une personne sur la terre. La foi, par elle, tu feras des exploits remarquables. Quand la foi est présente, le résultat est étonnant. Tu ne peux pas avoir la foi en Dieu et mourir dans la misère. Impossible. Mais tu peux obéir à toute la loi et mourir lapidé. On en parlera. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, quand Jésus rencontre la femme adultère à qui on est en train de jeter les pierres, quelle est sa réaction? Il dit que celui qui n'a jamais un péché, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le premier la pierre. Premièrement, écoutez-moi bien, est-ce que tout le peuple était à cet endroit? Non, il y avait des gens chez eux. Quand on dit, il y a des gens qui ont fait la marche, ce n'est pas tout le monde qui marche. Ce n'est pas tout le monde qui lapidait. Mais étrangement, c'était ceux qui étaient des pécheurs eux-mêmes dans leur conscience qui avaient porté la pierre. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Cette femme était accusée. Je vous pose une question. À cette époque, ce n'est pas le tribunal. C'est comme le tribunal islamiste qu'on voit là aujourd'hui. On trouve une femme et puis parfois on tue parce que on a... Vous ne comprenez pas de quoi je parle. C'est-à-dire cette femme, rien ne prouve même que vraiment, 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 il n'y a pas eu des gens comme elle qui sont morts accusés alors qu'elle n'avait rien fait. Et même, est-ce que la loi a été donnée par Dieu pour tuer les hommes? Non, la loi a été donnée par Dieu parce que ce peuple avait une promesse. Mais cette loi a commencé à victimiser le peuple. Et le peuple s'est rendu compte de la sévérité de la loi et grinçait des dents contre cette loi qui les rendait sans force et qui révélait leur péché. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Imaginez que cette femme avait obéi à toutes les autres lois. Et elle a violé une seule. Elle est morte par elle. Et c'est ce que la Bible dit. Celui qui obéit à la loi, s'il viole une seule loi, se rend coupable contre toute la loi. C'est là la sévérité de la loi. Le régime dans lequel vivait le peuple d'Israël. Mais quand on a la foi en Dieu, cette foi nous donne la capacité d'être la personne sur laquelle le ciel peut compter pour résoudre les problèmes sur la terre. Il faut la foi en Dieu. Lève ta main droite, dis Seigneur, je veux te faire confiance. Encore, je veux te faire confiance. Voyez, quand tu as la foi en Dieu dans ta génération, les gens auront de l'admiration pour toi, mais aussi de l'envie. Chaque fois que vous opérez par la foi, vous êtes admiré et envié. Admiré par ceux qui aiment Dieu, le craignent, envié, souvent même détesté par ceux qui n'aiment pas Dieu. C'est ce que la foi fait. Et la foi a aussi la capacité de te rendre immortel dans ta génération. Et un repère pour les générations futures. Chaque fois que tu agis par la foi, tu deviens un exemple. Tu es cité. Même après ton départ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez? Et donc c'est important de comprendre ces choses. Et même Moïse lui-même, qui a établi la loi, la Bible dit de lui dans Psaume 103, verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse. Ses œuvres aux enfants d'Israël. En quelque sorte, Moïse qui a reçu la loi de Dieu, ne connaissait pas simplement la loi, mais connaissait les voies de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui est ici, et puis pof, on dit Dieu va te bénir, tout de suite il est béni. Il voit la main de Dieu, il voit la guérison de Dieu. Mais il est différent de celui qui connaît les voies par lesquelles la guérison passe. Moïse connaissait les voies. Qu'est-ce que ça veut dire connaissait les voies? Il connaissait les principes et les lois de Dieu, les lois du royaume des cieux, qui existait avant même la loi de Moïse, qu'il a reçue du ciel. C'est pourquoi, au détriment de toute la loi, quand Dieu voulait détruire le peuple, Moïse a commencé à intercéder et il a dit, « Efface mon nom de ton livre. » On ne peut prier comme ça que s'il n'y a que quelqu'un qui connaît Dieu qui peut le dire à Dieu. Donc Moïse, bien qu'ayant reçu la loi, n'avait pas le cœur de la loi. Et la loi est venue par lui, mais il connaissait le Dieu qui a donné la loi. Il connaissait l'esprit de Dieu. Il connaissait la pensée de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. Il savait que ce Dieu-là venait du bien à son peuple. Et c'est pour ça qu'il osa dire à Dieu, mais que diront donc les nations? Quand ils apprendront que le Dieu que tu es a fait mourir ce peuple qu'il a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il prie comme ça? Parce qu'il sait, il savait exactement ce que Dieu recherchait par la sortie du peuple. Il savait que Dieu voulait tirer la gloire de ce peuple et non la honte. Et il a touché Dieu dans son cœur parce qu'il a connu Dieu au-delà de la loi. Vous voyez? Dans notre dispensation d'aujourd'hui, et c'est terrible de voir combien de personnes parmi nous, nous vivons sur la terre, mais nous vivons comme des parfaits légalistes. Et encore, on verra ça en partie demain, comment est-ce que nous sommes appropriés la loi qui n'était pas la nôtre. Qui n'était pas la nôtre. Et il a fallu que cette nation rejetât le Messie pour que le Messie s'adressât aux nations du monde et que maintenant la seconde partie de la promesse, toutes les familles de la terre, puissent être bénies en lui. Pourquoi nous allons encore dans la loi pour chercher Dieu dans la loi comme si la loi a révélé Dieu? Non. La loi est venue révéler les péchés du peuple. La loi a révélé l'imperfection humaine. La loi a révélé justement la faiblesse que l'homme avait privée justement de la vie d'en haut. Parce que n'oubliez pas que la loi a été bâtie sur le modèle divin. Mais malheureusement, le peuple qui devait obéir à la loi n'avait plus la vie d'en haut. Vous ne pouvez pas demander à des hommes de vivre comme des dieux. Les hommes étaient privés de la vie de Dieu et ne pouvaient pas obéir à une constitution qui s'adresse à ceux qui devaient avoir la vie de Dieu. Parce que c'est né d'en haut. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est ainsi que quand Jésus arriva, vous allez vous rendre compte que la Bible dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » La Bible n'a jamais dit qu'il ôte le péché, mais qu'il ôte le péché du monde. Le péché. Parce que pour Dieu, la loi a renfermé tout dans le péché et le seul péché devenait ne plus connaître le Messie envoyé pour régler la question de la loi. Je prophétise sur ta vie ce soir. J'appelle par la puissance de Dieu la manifestation des desseins arrêtés par son haut conseil à ton égard au nom suprême de Jésus. Je déclare au nom suprême de l'Éternel mon Créateur sur ta vie et ta destinée, que tout ce qui avait été rattaché à ta personne se manifestera pleinement au nom suprême de Jésus. Je me lève contre toute action des ténèbres. Je prophétise sur toi et je déclare le règne établi de Dieu par sa force au nom de Jésus. Ce que Dieu a rattaché à ton existence se manifestera pleinement au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Hallelujah.